carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean Lursa, né en 1892, fut un peintre d'abord influencé par le cubisme puis par le surréalisme. Il s'est consacré à l'art de la tapisserie sans pour autant abandonner la peinture. Passionné par la vie, les hommes, leurs souffrances et leurs joies, son œuvre tissée célèbre les héros de la résistance, la liberté, le ciel, les astres, les animaux, la nature. Sa première tapisserie fut exécutée en 1933 à Aubusson. La reconnaissance fut immédiate. L'État offrit à la reine d'Hollande la tapisserie Les Illusions d'Icare, tissée à la Manufacture nationale des Gobelins. Il s'intéressa à Angers, à la plus grande tapisserie du monde tissée au XVe siècle par Nicolas Bataille et Jean de Bandol, la fameuse Apocalypse, une révélation pour lui qui s'avéra capitale pour son travail. Après la Seconde Guerre mondiale, il composa une importante tapisserie, hommage aux morts de la résistance et de la déportation. Puis il commença l'exécution d'une série de tentures qui devaient atteindre 500 mètres carrés, groupées sous le nom général de Champ du Monde. Il fut accueilli à l'Académie royale de Belgique et à l'Académie des beaux-arts du Portugal, fonda à Lausanne le Centre international de la tapisserie ancienne et moderne. Enfin, en 1964, il fut élu à l'Académie des beaux-arts à l'Institut de France et décéda malheureusement brutalement 2 ans plus tard, en 1966. Son ami Claude Roy disait de lui « Rien de ce qui est arrivé à Lursa et rien de ce qui est arrivé à son pays n'a été absent de son œuvre. Elle dit magnifiquement les jours de l'histoire et les jours sans histoire. » J'accueille aujourd'hui sa veuve, Simone Lursa. Simone Lursa, bonjour.
Bonjour.
Simone Lursa, quand et pourquoi avez-vous jugé nécessaire de faire une donation d'œuvres de votre mari à l'Académie des Beaux-Arts ?
La raison est très simple, je n'ai pas d'enfant, mon mari n'avait pas d'enfant. Alors, depuis 50-60 ans, il accumule les documents sur la tapisserie ou la peinture. J'y travaille, moi, depuis assez longtemps aussi, et je trouvais dommage que tout cela soit perdu. Donc, à qui confier ? On m'a proposé de faire des sociétés indépendantes, mais par expérience, je sais que pendant une petite période de temps, ça marche bien. Ensuite, les irrités, les négligent, ça laisse tomber. J'avais donc deux choix, soit la Fondation de France, soit l'Académie des Beaux-Arts. Je suis allé voir la Fondation de France qui m'a pas beaucoup emballé. J'ai réfléchi sur l'Académie. Mon mari faisait partie de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a une section architecture. Son frère avait fait sa maison. Son frère qui est architecte a fait la maison.
André Lursa.
Ça me paraissait logique de le présenter à l'Académie. De proposer à l'Académie.
À l'Académie des Beaux-Arts.
Cette fondation. Ce qui s'est passé très gentiment.
Simone Lursa, que signifie pour vous protéger l'œuvre et la mémoire de Jean Lursa ?
Eh bien, ce que je vous dis, conserver ses archives. Et en même temps, il rêvait de faire un centre de documentation sur la tapisserie. Il en avait parlé en France, c'était Gaëtan Picon à l'époque, qui était aux affaires culturelles, qui a dit oui, mais la France n'a pas d'argent. Donc la Suisse l'a proposé et il a créé à Lausanne un centre culturel. International, je ne sais pas comment il s'appelle, CITAM, Centre International Tapisserie Moderne.
Voilà.
Qui a duré pendant quelques années, mais il y a participé la première année, il a même présidé. La seconde année, il était malade, il n'y est pas allé. Et ensuite, la tapisserie s'est beaucoup modifiée en faisant des fils, des choses qui ont découragé la ville de Lausanne, qui petit à petit a abandonné.
D'accord.
Hier et avant-hier, il y avait une grande session au Louvre. Et au Gobelin pour l'inauguration de la nouvelle galerie des Gobelins. Et hier, tous les orateurs ont parlé en disant quel dommage qu'il n'y ait pas quelque chose en France. Donc, j'ai gardé toutes ces archives en me disant que peut-être, grâce à l'Académie et peut-être les Gobelins ou autre chose, ont créé ce centre français, cette fois-ci la tapisserie, avec toutes les archives de la maison et peut-être même à la maison.
Rêve qui lui était quand même très cher à Jean Lursa. Il a beaucoup, beaucoup fait pour justement...
Il s'est beaucoup battu. Il a fait des conférences dans toute l'Europe et au-delà, puisqu'il en a même fait jusqu'en Amérique latine. Donc, il y a beaucoup d'archives à la maison.
Alors, en quoi consiste exactement cette donation ? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu la collection des œuvres léguées ?
Oui. Mon mari n'était pas de ces artistes qui se cantonnent dans une œuvre précise. Il s'intéressait beaucoup au monde actuel et à la vie normale. Et à plusieurs métiers. Il avait d'abord commencé par être peintre. Ensuite, donc, il a fait la tapisserie parce que pendant l'autre guerre, quand il a été blessé, sa mère faisait des petits coussins comme on faisait autrefois, et il lui avait fait des grands canevas. Du canevas, il a passé à la tapisserie. Il a fait de la peinture, il s'est intéressé à la céramique, dont il y a des céramiques. Il a toujours beaucoup lu, donc il s'est intéressé aux livres. Il a eu pas mal de commandes de livres de bibliophilie. Il a aussi, la maison Patek Philippe est venue le trouver. Non, pardon, c'est d'abord Löwenfeld, monsieur Löwenfeld, et le garçon qui avait fait un bijou pour Braque, dont on a beaucoup parlé. Malheureusement, Löwenfeld a cru faire sa fortune avec Braque. Braque est mort peu après. On parlait beaucoup de l'URSA à l'époque où la tapisserie se vendait si facilement. Il est donc venu trouver mon mari. Et il a fait avec lui trois bijoux qu'il n'a pas beaucoup aimés, mais ça suffit pour que Patek fasse des démarches et lui demande quelques bijoux. Il a fait ça un petit peu comme la céramique, comme détente. Pour lui, l'essentiel, c'était la peinture, c'était la tapisserie. Ce que je présenterai à la maison, c'est des tapisseries, c'est des livres d'art, c'est des céramiques. Et c'est ce que j'ai fait pour l'Académie.
D'accord.
Parce que quand j'ai proposé à l'Académie de donner ma maison pour essayer d'en faire une fondation, mais j'ai donné déjà à l'Académie pour qu'elle soit engagée des tapisseries, des céramiques, des livres. Vous avez vu d'ailleurs, il y a eu une présentation à l'Académie qui était fort bien faite d'ailleurs.
Cette donation s'est également accompagnée d'un don financier qui est destiné tout simplement au fonctionnement de la future fondation. Et comment est utilisée cette somme d'argent là pour l'instant ?
Je peux dire que j'étais très surprise par l'importance.
Oui.
Et on m'a dit à l'époque qu'on avait refusé certaines donations parce que l'Académie n'ayant pas d'usine ou de rapport que par les donations. J'ai donc encore hésité, mais j'ai donné une bonne partie de tout ce qui m'appartenait. Et bien des amis me disent, comment tu leur donnes des œuvres, tu leur donnes ta maison et il faut encore que tu leur donnes de l'argent. Mais d'un côté, c'est logique parce que c'est pour entretenir la maison, pour avoir un gardien, pour tout entretenir. Mais comme ma maison, je vais la donner à ma disparition, je vais quand même garder un peu quelque chose pour moi, mentalement et moralement. Pour le moment, c'est moi qui fais les frais, dont l'Académie a les sommes versées qui prospèrent l'Académie. L'Académie, en attendant, mais elle m'a quand même donné un garçon une fois par semaine et une fille deux, trois fois par semaine pour m'aider dans les classements et les dossiers.
Alors, que représente pour vous cette ouverture au public un jour de la vie de la Sera ?
Eh bien, c'est une prolongation de la vie de mon mari qui a fait des conférences un peu partout, des expositions un peu partout. Donc, eh bien, après sa disparition, pour que toute son œuvre, son travail ne disparaisse pas, c'est un peu la prolongation.
Jean Lursa était un artiste peintre, vous l'avez rappelé au début, et c'est à partir de 1938 principalement qu'il s'est entièrement consacré, enfin entièrement, il a fait des allers-retours entre la peinture et la tapisserie, mais il s'est principalement consacré à l'art de la tapisserie en redonnant une dignité nouvelle à l'art du lissier. Comment s'est opérée cette orientation nouvelle dans son travail, Madame Lursa ?
Comme je vous l'ai dit, quand il était très jeune, il était à la guerre 14-18, il a été blessé, il était donc chez lui, chez ses parents. Et c'est la mère faisant ses canevas, il a commencé à lui dire, au lieu des petits coussins, il a fait des grands panneaux de canevas. Donc il s'intéressait toujours à l'art mural. Il a ensuite voulu s'occuper de fresques parce qu'il trouvait, ses parents voulaient qu'il fasse médecine. Et lui avait envie de faire une carrière artistique. Il a donc voulu commencer à s'occuper de fresques. En disant, je suis trop vieux pour carrément faire de la peinture. Donc, il a commencé à faire de la fresque. Il y a eu la guerre. Il est parti à la guerre. Et au retour, il avait abandonné la fresque parce qu'il trouvait que la fresque est figée sur le mur. Elle ne peut pas se déplacer comme un tableau, comme une tapisserie. Donc, au retour de la guerre, il est revenu à la peinture. Il a fait de la peinture pendant quelques années. La crise de 1929 l'a quand même perturbé, la crise américaine. Il s'est toujours un peu intéressé à la tapisserie puisqu'il avait commencé jeune. Et Guillaume Janot, qui était aux affaires culturelles, a envoyé trois artistes à Aubusson parce qu'Aubusson, qui depuis le Moyen-Âge était un centre important de tapisserie, avait une grosse crise au XIXe siècle. Mayol avait essayé quelque peu, ça n'avait pas trop marché. Donc on a envoyé à Aubusson l'URSA, puisqu'il s'y intéressait déjà quelque peu, Grosmère parce qu'il faisait des choses murales, et Dubreuil, trois artistes qui sont allés à Aubusson pour qu'il s'imprègne et qu'il voit ce qu'il fallait faire pour essayer de refaire vivre Aubusson. Les deux grands ateliers actuels, le premier s'appelait Madame Goubuli, elle faisait des chapeaux parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec. L'autre, c'est Tabar, qui est un atelier depuis 1637, mais qui travaillait une usine de lampes électriques parce que ça ne marchait plus. Ils sont arrivés là au moment de la guerre, mais pensant y rester un mois ou un mois et demi. Mais comme il y a eu la guerre, ils ont été bloqués là. Et comme ils ont été bloqués là, ben, ils se sont pris de passion pour ce qu'ils faisaient. Et c'est le fait d'être resté là-bas qui fait qu'ils ont beaucoup travaillé sur la tapisserie.
Alors, et puis il y a eu aussi, un petit peu avant la guerre, la découverte ou la rencontre avec la grande tapisserie, l'Apocalypse d'Angers, qui a été un grand choc pour Jean Lursat.
Comme je vous ai dit, il s'est toujours intéressé à la tapisserie.
Voilà.
Il est allé à Angers, je crois, en 1937, où quand même la tapisserie, parce que la tapisserie de l'Apocalypse avait été faite au XIVe siècle par l'évêque d'Angers, où elle est restée deux siècles. Et au moment de la Révolution, elle a été mise dans une église de... Saint-Sauveur ou non, comme ça, enfin, voilà, chassé d'Angers. Et c'est un évêque qui l'a ramené après la guerre. Là-bas, elle était assez négligée. Et quand il est revenu, elle était en mauvais état. Il ne l'a pas remise au mur. Il en a fait des protections pour ses chevaux, des stalles de chevaux pour qu'ils ne s'accrochent pas au mur. Et c'est resté comme ça pendant 40 ou 45 ans. Et quand même, un autre évêque les a repris, a essayé de les mettre un petit peu en état et les a présentés. Et c'est à ce moment-là que mon mari les a vus, avec un Américain qui s'appelait Barnes, qui est allé le voir. Il était impressionné parce qu'il a trouvé sa majesté extraordinaire, mais en très mauvais état. Donc il en a beaucoup parlé, il a fait un bouquin, la préface de livre sur la tapisserie d'Angers, et nous y sommes allés plus tard, et il m'a dit, tu vois, si je n'avais servi qu'à ça, c'est important, parce qu'on avait refait un musée en bon état, et les tapisseries étaient bien présentées.
Et elle a été entièrement restaurée par ses soins d'ailleurs, non?
Il y a toute une équipe. Il y a 144 mètres, rien, qu'on n'a pas été complète, elle devait être de 90 pièces, je crois. Mm-hmm. Il y en a 60 et quelques. 144 mètres, 50 mètres, 50 de haut.
Pas lui seul, bien entendu.
Il fallait des équipes qui ont travaillé pendant des années.
Oui.
Mais ça valait la peine.
Voilà, mais enfin, il a coordonné ce travail.
En tout cas, ça lui a donné une idée, c'est-à-dire un récit par l'Apocalypse, sur le menace d'époque. Ensuite, il y a eu quand même les tapisseries de Cluny, la Dame à la licorne, qui sont aussi une série de tentures. Je pense que ce qu'il lui a donné plus tard, quand pendant 20 ans il a travaillé sur des tapisseries de moyenne dimension, petite dimension, de faire ce qu'il appelle le champ du monde, c'est-à-dire son testament.
Alors, Jean Lursat était un artiste, un homme d'action, son sens du combat et l'expérience... De la guerre, des deux guerres, il a connu l'Argonne en 1916 et puis le maquis dans le Lot durant la Seconde Guerre mondiale. Ont-ils eu une influence sur son œuvre?
Sûrement. Beaucoup, surtout la Première Guerre. Il a été très, comme tous les jeunes artistes qui étaient là, qui sont en tant qu'artistes assez sensibles, il est sorti traumatisé de la guerre. Si à la fin de la vie, on le trouvait épanoui, mais au début, après la guerre, il a eu des crises d'angoisse terribles. Il trouvait d'ailleurs que la peinture, on est seul avec soi-même. Et c'est encore l'angoisse continue, c'est pourquoi il a apprécié la tapisserie où il y avait les ouvriers, il y avait les collègues, il y avait tout ça qui a permis de s'ouvrir et d'apporter de la chaleur humaine.
Travail collectif qui permettait de surmonter tout ça. Parlez-nous un petit peu de la tapisserie Liberté qui a été tissée en 1943.
Je ne peux pas vous en parler pour une bonne raison. Moi, je n'ai pas connu Lursat dans le milieu artistique, je l'ai connu dans les maquis du Lot.
Oui, alors comment l'avez-vous rencontré?
Eh bien, moi, j'étais une des rares femmes qui conduisait à l'époque.
Oui.
Je n'avais pas appris à conduire par fantaisie parce que mon père était malade. Mais n'empêche que par les circonstances, je faisais des liaisons maquis. On m'a dit qu'il y a deux personnalités parisiennes à récupérer dans un presbytère du nord du département de l'Aude. Les deux, que je suis allée chercher en voiture puisque je conduisais. Les deux personnages étaient un directeur de banque de Paris et Lursat, qui se présentait sous le nom de Bruyère. Voilà, alors c'est comme ça que j'ai connu. Évidemment, il est arrivé dans le groupe où nous étions. Il avait 20 ans de plus que tout le monde. Mais très rapidement, on l'a oublié parce qu'il avait un caractère très jeune. Il se levait le premier, il faisait le café pour tout le monde. Et il était vraiment... des gens qui avaient 20 ans de moins que lui, qui étaient beaucoup plus âgés.
De cette période sur la tapisserie Liberté, vous nous disiez justement...
Vous me posez une question sur Liberté, c'est pour dire que je ne l'ai pas connu quand il faisait Liberté.
D'accord.
C'est pourquoi je vous ai parlé de l'époque maquis, où il s'occupait d'une imprimerie clandestine. C'est moi qui suis allée chercher l'imprimeur et les caractères qu'il fallait pour faire cette imprimerie. Il s'occupait d'édition clandestine, du journal clandestin. Et Liberté avait été fait avant.
Juste avant.
Je savais que le texte d'Éluard avait été... dit-on par avion, si j'en sais rien, c'était en France, et donc ça a été fait clandestinement. Je l'ai vu après, mais je ne peux pas vous parler de sa création.
Vous l'avez donc rencontré en quelle année? 44?
Oui, début 44.
Début 44.
Après le 6 juin, après le débarquement de 6 juin. C'est même la période la plus dangereuse, parce que jusqu'en 42, la zone sud n'étant pas occupée, c'était plutôt tranquille. Mm. Mais fin 43 et début 44, c'était plutôt
dangereux. Oui, ça a été très, très, très... Oui, bien sûr, mais c'est... l'épisode horrible de Oradour, c'est toute cette période.
C'était pas très loin,
c'était pas très loin. Et le Lot, effectivement, Tulle, les gens étaient pendus de Tulle.
C'était un ami à moi qui me chargeait de l'ordre médical. Les médecins qui devaient aller à Tulle, il était... On lui a dit, des paysans, lui a dit, attention, les Allemands à Tulle, ils restaient dans des fossés à quelques kilomètres de Tulle, en voyant Brutus qui a brûlé, puis tous les gens qu'on a pendus, au croque du boucher. Il y avait le boucher, ça a été terrible à Tulle. En fait, c'était la même équipe qu'au droit d'ours, c'était la même période.
Oui. Donc, une région très, très marquée.
Beaucoup.
Et très engagée dans
son
combat.
Surtout après la guerre, par les tapisseries.
Voilà. Alors, il a défendu l'art de la tapisserie, vous l'avez rappelé, Simone Lursa, partout dans le monde. Il a beaucoup voyagé. Le plus possible. Il a eu l'occasion de se rendre comme ça un petit peu dans les quatre coins du monde. C'était un infatigable voyageur. Évoqueriez-vous pour nous le souvenir d'un de ses voyages ? Soit que vous avez partagé avec lui,
Avec lui, le Mexique, qui a été passionnant, mais où il a fait une crise cardiaque. Et puis l'Égypte, où nous sommes allés au moment où 3-4 académiciens lui avaient proposé de se présenter à l'Académie.
Oui.
Il a beaucoup hésité parce que jusque-là, il n'avait jamais accepté aucune décoration, aucun honneur. Il a dit, je ne veux pas être à Paris. Donc, nous sommes partis en Égypte. On a fait un voyage passionnant dans la Haute-Égypte. Oui. On a visité Abou Simbel avant que ce soit déplacé et remis sur sa colline. Et quand nous sommes rentrés, on lui a annoncé qu'il était élu à un nombre très important de voix au retour. Mais donc, il n'était pas là au moment des élections.
Il a donc été élu en 1964 à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Et en fait, il ne voulait pas être à Paris au moment de son élection. Je crois qu'il ne réalisait pas de croquis pendant ses voyages.
Il ne réalisait pas ?
De croquis. Non. Il s'imprégnait du temps présent.
Il posait des questions, il regardait, mais non.
Voilà. Et c'est ensuite qu'il réinvestissait dans son travail ses souvenirs.
Il ne faisait pas de maquette. Il n'a jamais voulu faire de maquette.
Comment procédait-il ?
Il a été obligé d'en faire une pour Bourguiba, qui voulait absolument... Madame Bourguiba, la seconde, voulait une maquette. Parce qu'il disait que s'il faisait une petite tapisserie, quand il faudrait la refaire à l'échelle, il ne ferait jamais la même chose. Il ne savait pas copier. Il fallait qu'il crée. Donc, il faisait les tapisseries de la dimension définitive qu'elle aurait. Le carton était fait, c'est pas une maquette, en fait, le carton sur lequel on tissait était fait de la dimension de la vraie tapisserie.
Puis il y avait une petite technique.
Il avait déjà le cœur un peu fatigué, de toute façon. Il concevait le matin dans son lit. Il écrivait plutôt, si mentalement, il disait, je vais faire ça dans le moins de là, je vais faire là. Alors, quelquefois, c'était une note écrite. Faire ces plantes, ou faire ce soleil-là, ou faire ceci. Mais c'était mental, ou à la rigueur écrit, mais pas de petits croquis. Il faisait mettre le papier au mur, et puis il se lançait sur le papier au mur.
Et pour les couleurs, c'était aussi un système particulier.
Alors là, il disait, d'abord les couleurs. Par expérience, il avait trouvé que les couleurs de laine ne correspondaient pas si peignées aux couleurs papier. Donc, il y avait un seul teinturier à Aubusson. Il avait fait ce qu'il appelait un chapelet de laine. 5 numéros de blanc, 5 numéros de rouge, pas de blanc, pardon, blanc et noir, il n'y avait qu'une couleur. 5 rouges, 5 verts, 5 jaunes, etc. Et il numérotait, quand il avait fait son dessin, il numérotait les couleurs. Mais comme il était peintre, il peignait quand même pas mal de couleurs pour donner du relief. Voilà, c'était à l'échelle même.
Vous venez nous expliquer comment il travaillait pour créer ces cartons de tapisserie. En fait, il travaillait vraiment à grande échelle. Et quel lien entretenait-il avec les lissiers qui l'accompagnaient dans ses créations ?
Eh bien, c'est ce qui, je crois, comme il l'a écrit d'ailleurs, pas le bouquin n'est pas là, sur le côté de confiance, ça lui a donné de travailler en équipe au lieu de travailler seul. Parce que d'abord, il était au Buisson, quand les premiers lissiers pendant toute la guerre. Ensuite, il allait très souvent au Buisson. Et le chemin entre le Lot et le plateau de Mille Vaches, c'est pas très commode. Mais à l'époque, ils y allaient. Ensuite, c'est eux qui venaient, le plus souvent. Où ils avaient une telle technique dans leur vocabulaire, puisqu'il leur avait donné les graduations, il y avait les numéros, donc ils pouvaient travailler sans lui. Mais il allait souvent au Buisson, il travaillait avec eux, il discutait avec eux, surtout à Bar, cet atelier qui existait depuis 2 siècles, et qui a malheureusement disparu parce que tous sont morts. Alors, il n'y a plus de maison tabac, et c'est bien dommage, parce que c'était un homme droit, honnête, courageux. Vraiment, celui avec qui il a le plus collaboré.
L'atelier tabac, effectivement, qui a disparu en 1983. On vous retrouve dans quelques instants, Simone Lursa.
Thank you.
Et Jean Lurçat, dès son plus jeune âge, a aussi fréquenté des écrivains, des poètes. Qui a-t-il rencontré? Avec qui s'était-il lié d'amitié?
Comme il avait l'esprit curieux, c'était un peu dans tous les domaines. Il a toujours été, il était ami d'enfance du docteur d'Alsace, qui était un docteur gynécologue, par qui il a connu pas mal de monde. Il était très ami. Avec la tapisserie, il a travaillé avec Dufy. Ils ont fait certaines
avec
choses à quatre mains.
Raoul Dufy.
Il était très ami avec Marcoussis comme peintre.
Ouais.
Avec aux enfants, qui est un homme parfaitement et totalement abstrait, ce qui est plutôt surprenant, mais enfin bon. Léger est venu le voir à s'insérer. Ce qui est quand même sympathique de la part de Léger qui était venu. Aragon et Luard, enfin, au début surtout, Aragon et Luard lui donnaient. Au début, il a eu envie de faire comme au Moyen-Âge, de mettre des verres dans les tapisseries. Alors il demandait à tous ses amis. Pierre Séguer, c'était un ami très intime. On aimait beaucoup Séguer, on le voyait beaucoup. Pierre Séguer avec sa collection de poèmes. Parce que mon mari lisait beaucoup. Vous m'avez demandé pourquoi les prix, pourquoi on a fait ces livres, parce qu'il était très intéressé par la littérature. Et on lui a demandé, c'était une époque où on faisait beaucoup de livres d'art illustrés. Et il en a fait pas mal. Et il se passionnait pour ça. Et quand il est mort, on lui avait commandé un Saint-Jean de Perse. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des photos du Tour Saint-Laurent.
Oui, Saint-Céré, c'est le nom du village du Lot où Jean Lurçat avait fait l'acquisition d'une propriété où il y a en fait deux tours médiévales qui surplombent le coin, d'où le nom des Tours Saint-Céré, et où il avait en fait installé son atelier des Tours Saint-Laurent.
Il avait quelqu'un qui descendait en voiture, lui descendait à pied, et il dit « Les voisins doivent me prendre pour un fou », parce qu'il avait son Saint-Jean de Perse, et il descendait en déclamant Saint-Jean de Perse. Il se plongeait dans le livre avant de commencer l'illustration. Alors il descendait comme ça, avec son Saint-Jean de Perse, le dernier, et il remontait avec la voiture et le chauffeur, parce que pour remonter, c'était trop dur.
Il était trop fatigué, niveau cardiaque. Il a illustré des auteurs à la fois contemporains de sa génération, mais aussi des plus anciens. Il a illustré La Fontaine.
Fabre, les Fabres.
Voilà.
Les merveilleux des insectes, évidemment, c'est pas contemporain.
Oui.
C'est selon les... Il faut bien le dire. C'est ou son envie, puisqu'il en a fait, ou il a fait lui-même les textes et les illustrations, ou bien des commandes d'éditeurs.
Alors, vous partagiez tous les deux cette même passion des livres?
Oui, parce que moi, j'avais un père qui lisait beaucoup, j'ai lu toute ma vie. Et puis, j'avais un vieux médecin à côté de chez moi, qui faisait sa tournée tout le temps, et qui passait le soir. Et il déclamait beaucoup de vers. Et il s'amusait avec moi, qui était jeune à l'époque. Il me dit, ces vers-là, de qui c'est? Et ces vers-là, c'est de qui c'est? Ce vieux médecin, qui s'appelle le docteur Coudert, a failli avoir le Goncourt quand Malraux l'a eu. Il a eu quelques voix. Il y a un poète de Toulouse qui s'appelle Léo Larguier, qui disait « C'est un vieux médecin dans un petit village, je le vois rarement, mais le tien pour un sage. » D'ailleurs, il devait m'inviter à déjeuner avec Malraux, qui devait le voir après cette histoire. Donc, c'était comme ça, c'est la vie qui m'a plongée dans... Il y a encore un garçon que je vois quelque peu, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Gilbert Proutot, qui a fait un peu de cinéma et qui a fait des films. Qui, pareil, chez qui je suis allée assez souvent, et qui a 6 enfants, dit « Bon, maintenant, c'est la demi-heure de mémoire. » Et qui dit des vers, comme ça, avec une mémoire. Et lui, par contre, je le soupçonne s'il lui manque de compenser. Le vieux médecin ne compensait pas, c'était rigoureux.
Alors, vous aviez en commun cet amour de la poésie, tous les deux. Pourriez-vous nous dire... Il y a 3 très très beaux ouvrages qui ont été montés là par la bibliothèque de l'Institut. Parmi les œuvres que vous avez léguées à l'Académie des Beaux-Arts, il y a un exemplaire de « Domaine » de Jean Lurçat, qui est un texte et illustration de Jean Lurçat, on va revenir dessus. « La fable du monde » de Jules Supervielle, illustré par Jean Lurçat. Et puis également « Animalité » de Jean Giono. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces 3 livres, de ces 3 exemples, de ces 3 rencontres, parce que un livre d'artiste, c'est la rencontre entre un artiste et l'écrivain, ou le poète, ou si c'est ses propres textes là, dans le cadre de Domaine. Puis c'est aussi la rencontre avec ceux qui vont faire le livre. Et ça, c'est là encore une aventure collective qui devait le satisfaire pleinement. Par quoi commençons-nous? Lequel des 3 préférez-vous aborder en premier? Les auteurs, les rencontres?
Supervielle, je n'étais pas là.
Oui.
Mais il aimait beaucoup le poème Supervielle. Supervielle, je ne sais pas qui l'a commandé, mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Supervielle avait comme était édité chez Gallimard, et mon mari, c'était un éditeur suisse qui s'appelait Gonin.
Oui.
Parce qu'il avait passé pas mal dans Suisse il y a longtemps, et finalement, Gallimard et Gonin ne se sont pas, je crois, entendus, c'est-à-dire que Gallimard ne voulait pas partager.
Oui.
Et c'est Gonin qui a fait totalement ce livre, que mon mari a fait avec beaucoup d'enthousiasme.
Oui,
c'est et qui, je crois, a beaucoup plu à Supervielle, qui lui avait écrit avant, que je ne connais pas, et qui lui a écrit. J'ai retrouvé les lettres, une lettre de Supervielle le remerciant.
Jules Supervielle a écrit en remerciement du travail accompli.
Avant, j'ai trouvé que cette lettre était sympathique à vous apporter.
Alors voilà, alors c'est très gentil, on va donc la lire. 15 Quai Blériot, Paris, dans le 16e, le 25 avril 1960. Cher ami, on m'a remis à la NRF le magnifique exemplaire de la Fable du Monde, si heureusement illustré par vous-même. Je suis tout le temps sous le charme admiratif de votre art et de cette merveilleuse réalisation. C'est là un bien beau volume divers, riche de pensées et de méditations. Merci, mon cher ami, de vous être penché avec tant d'art et tant de cœur sur mes poèmes. Vous avez réussi à faire une œuvre remarquable, absolument. Bien votre Supervielle. Alors, effectivement, c'est une lettre très, très enthousiaste. Avait-il eu le projet d'illustrer d'autres textes Supervielle ? Vous ne savez pas ? Et dans cette fable du monde, qui est une poésie un petit peu lyrique, ça se met très, dans un langage très simple et très beau, une très belle poésie.
Il évoque les quatre éléments, comme ceux qui ont beaucoup d'intérêt, mon mari, en tapisserie, comme dans le bouquin, les autres livres. Quoi.
Donc là, il y a une correspondance des termes abordés, ou disons des thèmes de prédilection de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, vous, dans la fable du monde ?
Oh là, je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je reprenne le livre parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de les relire. Celui que je connais le mieux, les Domaines, c'est que nous étions en vacances en Suisse quand il a écrit les textes de Domaines.
Domaines, j'ai juste précisé pour les auditeurs, c'est un autre livre paru en 57, mais qui est écrit là par lui,
illustré par lui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Domaine ?
Il s'amusait. On se promenait comme ça. Le matin, il se levait beaucoup plus tôt que moi.
Oui.
Et alors, il inventait des poèmes qu'il écrivait comme ça.
Il les a écrits à Saint-Cérès,
Le départ, c'était Cran-sur-Cière.
Oui.
On était à Cran-sur-Cière pendant quelques temps. Et puis après, il a continué à la maison, bien sûr. Et ensuite, quand l'éditeur lui a demandé l'illustration, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la masse de travail que ça représentait. Parce que pour chaque poème, il y avait un bandeau illustré qui précédait le poème et une page entière correspondant au poème. C'était un très, très gros travail qu'il a fait.
Dans Domaine, il y a tout un bestiaire. Il y a de très belles choses sur le corbeau, sur la chouette. Et chaque lithographie a été rehaussée à la main.
À la main, c'est ça.
Il est repassé sur chaque page.
C'est un de ses élèves qui lui a dit « Vous n'avez pas calculé combien vous aurez à faire d'illustrations.
» Parce que je crois qu'il y a 150 exemplaires, non ?
À peu près.
Je ne sais plus, mais c'est dans cet ordre-là.
Et puis, toutes les pages, compter toutes les pages, les bandeaux, ça fait beaucoup.
C'est un petit peu comme dans sa tapisserie, il y a un nombre limité de couleurs. Et en même temps, il y a quelque chose toujours de très, très lumineux dans cette restriction. Et on retrouve partout le thème du feuillage, de l'arbre, qui se confond avec soit des visages, soit des hommes, soit des animaux. On a ce lien et toujours aussi quelque chose de très solaire, des soleils, des étoiles un petit peu partout. C'est vrai que ça correspondait tout à l'heure vraiment beaucoup à la poésie de Supervielle. Et là, dans Domaine, j'ai trouvé beaucoup de liberté dans justement la main de Jean Lursa. Y a-t-il un animal ou un poème dans Domaine qui a votre préférence ?
Nous avions de grosses discussions sur l'homme et la femme.
Ah !
Parce que
effectivement,
mais n'ouvre qu'un œil. Je dis non, ça, je n'admets pas. Alors on s'est... Non, pas disputé, mais on a beaucoup discuté là-dessus en disant non, c'est pas sympathique de dire. Voilà, c'est sur l'homme et la femme.
Sur l'homme et la femme, effectivement, ce sont les deux éléments de la fin du texte.
Il a fait les animaux.
Il y a tous les animaux, et bien entendu.
L'homme et la femme. Vous avez vu le texte de la femme ?
Oui, j'ai lu.
Je vais lire la fin en disant ça. Je ne peux pas vous dire tout le vers, mais c'est en bien. Soit, mais fait un ouvre qu'un œil. C'est l'édition de luxe.
Une édition de luxe, hein, avec un emboîtage très, très beau. Alors, il a effectivement dessiné. On dit dessiné pour...
Malheureusement.
La chouette, les grenouilles, le corbeau, le coq.
J'aime bien l'abeille aussi, elle est très belle.
Et l'abeille, Domaine s'achève avec les deux derniers éléments, la femme et l'homme.
L'homme et la femme, alors là, c'est là où on a...
Vous avez discuté tous les deux, oui, bataillé peut-être.
Bien sûr que je l'ai critiqué, ce qui le faisait rire.
Ah, ça le faisait rire. Alors voilà ce que Jean Lursa écrivait. « Prends patience, pose ton oreille sur sa gorge, écoute. Elle nage dans une fraîcheur qui a nié le sel, elle est douce au toucher Hélas, elle glisse entre les doigts. Des algues l'accompagnent. Elle dissimule ses yeux sous cette toison qui frise comme une eau réveillée par le ricochet. Qu'elle soit blonde, qu'elle soit noire, prend peur, évite de trop près son regard, ne devine qu'à demi. Une seule blessure suffit d'être un homme condamné à s'ignorer toujours. Ces deux longs fuseaux qui portent sa carène, qu'il calme tes détresses. Ouvert ou secret, le fruit a sa saveur que la feuille ombreuse maintient par ton usage. Garde ta femme tiède et sans violence vaine, aime la lune soupçonneuse, fuis le trop grand soleil qui dénude ta compagne, prends sa main, marche côte à côte. Ève fut si curieuse qu'au lieu de paradis, elle n'eut sous le vent qu'un gravier de douleur. Trop savoir ou savoir, c'est monter sur sa croix. Sois, veille, mais n'ouvre qu'un œil.
Ah, cette complaisance, ne pas trop savoir, ne pas d'ombre. On s'est beaucoup amusé là-dessus.
Voilà, alors il y a une très belle...
C'est lui qu'on a le mieux connu, parce qu'Animalité a été fait étrangement un peu avant sa mort, par un éditeur bizarre qui n'a même pas réalisé toute l'édition. La conservatrice qui s'occupe de la succession de Giono m'a dit « Est-ce que vous avez des documents ?» Moi, je dis « Je n'en ai pas », elle n'en a pas non plus. Il a voulu faire ce livre Animalité, ça avait beaucoup amusé mon mari, il avait demandé à Giono.
Oui.
Mais de faire que dans l'homme, il y a de l'animal et dans l'animal, il y a de l'homme.
On retrouve exactement
donc,
toujours les mêmes
problèmes. Il avait fait ses dessins et Giono a dit, mais j'ai modifié certains textes après avoir vu vos dessins. Donc, les deux étaient contents, mais c'était pas longtemps avant la mort de ça. Et puis après, l'éditeur a disparu. On a une éditeur énigmatique, Klein, il s'appelait, vous avez son nom quelque part.
Oui.
Et il avait fait, c'était un peu ingrat, il y avait des doubles pages qui sont un peu dures, si vous avez vu dans les...
Oui.
D'ailleurs, j'ai dit la documentation, si j'ai Giono, si vous avez quelque chose, vous me rendrez service, parce que moi-même, je n'ai rien. Ce que je sais, c'est qu'il vivait avec quelqu'un, il était fâché avec sa famille.
Il avait vous une femme parlez de Jean Giono
les... Je parle
non,
de l'éditeur,
du, l'éditeur pardon.
Et dans les greniers, ils ont retrouvé des tas de planches de ce livre, qui n'ont pas été montées, qui n'ont pas été éditées, qui ne sont pas sorties.
C'est un livre plein d'humour, pourtant. Enfin, je veux dire, enfin, pourtant, c'est un texte très, très drôle.
Les autres sont amusés.
Ils se sont beaucoup amusés, j'imagine.
Lui avec les textes de Giono et Giono avec ses dessins.
Et alors, il y avait un va-et-vient entre l'écriture et l'illustration.
Un peu. Enfin, il a écrit d'abord à... il a écrit Giono, au départ, pour dire s'il était d'accord.
Oui.
Mais après, ils n'ont pas tellement correspondu, parce que c'est très peu avant la mort de l'Ursa.
Oui.
C'était au dernier moment et que cet éditeur disparaissait tout d'un coup, il réapparaissait avec son mononcle. Très curieux.
C'est en 65 que le livre est paru.
Mort, en janvier 66.
Voilà.
Donc on n'a pas beaucoup de
pas grand-chose. Et d'ailleurs, Jean Lursat est mort en 1966. C'est un texte qui a été très mal diffusé, peu connu donc, et mal répertorié dans l'œuvre de Jean Giono. Il y a un très beau passage dans l'ouvrage « Animalité » de Jean Giono, illustré par Jean Lursat. Le livre s'ouvre sur une très courte introduction de Jean Lursat, mais qui montre son amitié pour Giono. C'était à Harlem et c'était au temps où le blanc ne saignait pas le noir pour en faire pisser du rouge. Je brûlais assoiffé et béant des soirées entières devant cette ivresse commune à quatre ou cinq instrumentistes mêlant, tressant, nouant un chant venu du plus profond des tripes et des viscères. Improvisant, ouais, oui, obéissant plutôt à ces bourrasques que d'amour, les saisons, les astres dictent parfois aux hommes et les incitent sans protocole à chanter en chœur, battant du cœur, clignant du ciel. Giono a proposé ce chant en commun, joué à quatre mains, j'étais d'avance acquis à cette coalition. La terre et les hommes, c'est du liquide, du solide, du broussailleux, des vapeurs et des eaux. On s'est trouvé tout de suite d'accord, on avait des attaches communes et comme seul patron, terre, pierre, le vent et la lumière. Vraiment, ça signe leur enthousiasme.
Il avait un langage très, très sympathique, très, très dru, très, très pittoresque, très, mais très vigoureux en même temps.
Alors là, par contre, on n'est pas dans la poésie qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un texte plein d'humour.
C'est un jeu.
C'est un jeu, exactement. Comment vous l'avez ressenti, vous ?
Oui, il m'a beaucoup intéressé et je suis navrée qu'il n'ait pas été diffusé.
Oui.
Presque personne. Vous avez vu des biographies de Giono, on n'en parle pas.
Oui, j'ai fait les recherches et effectivement, je n'ai pas trouvé.
Parce que c'est à la fin, elle n'a pas de documents, pas plus que moi, j'en ai quelques-uns.
Ouais.
On a vu cet homme deux ou trois fois, il était très bizarre. Moi, on a cru qu'il travaillait pour quelqu'un d'interdit. On ne sait pas, après la guerre, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que le livre a pratiquement pas diffusé, et que pas plus d'auteurs, tous ceux qui travaillent sur Juno ne le connaissent.
Oui.
Elle en a entendu parler puisqu'elle m'a demandé des documents que je n'ai pas. Je ne sais pas, je suis navrée, je le regrette.
Il y a là aussi moins d'une centaine d'exemplaires. Et alors, les illustrations de Jean Lursa sont magnifiques.
Et un peu ingrates, un peu dures.
Un peu dures, mais le texte
très
aussi.
Différent, oui.
C'est très différent. C'est très différent et le texte est très mordant. Alors, il y a un texte très drôle. Il y a le tigre, l'image du tigre. Alors il y a l'abeille, ils sont tous. Il y a aussi la poufiasse. Vraiment, donc là, je crois qu'ils se sont beaucoup amusés tous les deux. Parmi les animaux choisis, il y a le cheval. Parlez-nous de cette planche et de ce texte consacré à ce que Lursa et Giono ont appelé le cheval bistrot. C'est le palio de Sienne qui les a en fait inspirés. Ce sont des fêtes.
Chaque quartier a un cheval qui représente le quartier. Et sur une place qui est une place ronde, avec les armures et les tenues du Moyen-Âge, il y a la course des chevaux. Alors c'est très curieux parce que nous étions invités par quelqu'un. Alors la foule est au milieu ou sur les côtés. Il y a les barrières. Alors vous voyez tantôt les têtes, tantôt les retournes. Les gens tournent comme le machin. Alors quand on est là-haut à une fenêtre, on voit les têtes, on voit les yeux. Alors il a plein d'yeux et de machin. Et alors le guide, le cavalier qui participe pour son quartier, on a peur, il est séquestré pendant 2-3 jours en cas que notre quartier lui paie des bakchiches pour qu'il perde.
Ah.
Alors il y avait Olivier Jeanbien et sa femme et Reichenbach qui tournaient un film. Nous étions dans la même maison. Et alors entre Madame Jeanbien et moi, on avait un cadre, on a le bistrot parce qu'on est allé manger au café avec le cavalier qui devait participer à la course entre nous deux. Il ne fallait pas qu'il soit corrompu par des concurrents, c'était très drôle. Et ça, c'est tous les yeux de tous les publics. Mais c'est passionnant, ça existe depuis des siècles, il y a des foules qui y vont.
Effectivement, Lursa a choisi de dessiner un cheval rouge. Vous pouvez retrouver l'image de ce cheval rouge, justement, sur notre site internet. Nous marquons une courte pause. Et à tout de suite, Madame Lursa. Après cette courte pause, je vous propose d'entendre un extrait justement tiré de l'ouvrage « Animalité » de Jean Giono, illustré par Jean Lursa. Ouvrage, je rappelle, qui a été très mal diffusé, qui est très peu connu et qui est à peine répertorié dans l'œuvre de Jean Giono. Alors, le texte s'appelle « Le tigre ». Il y a beaucoup de monde dans un tigre. Des banques, des corsos carnavalesques, des matchs de football, des caisses d'épargne, des loteries nationales, des bourses de commerce, des plébiscites, des grands conseils de l'ordre, des radios-télévisions, des chambres syndicales, des palais épiscopaux, des Sorbonnes, des panthéons, des arcs de triomphe, des états-majors, des joueurs de boules de Saint-Mandé, des académies de billard, des vélodromes d'hiver, des tours de France, des foires de Beaucaire, des matadors en plaza, des chaires à Notre-Dame, des avenues triomphales, des sécurités sociales, des usines de Marcoule, des hôtesses de l'air, des morts au champ d'honneur, des dernières cartouches, des viens poupoules, des ONU, des UNO, des CQFD en quantité. Finalement, tout ça est très gentil. Il serait navré de savoir que... Donc, effectivement, c'est une peinture très cocasse et très...
Tout à fait différent de
toute la poésie
d'un côté, la poésie, de l'autre, de l'humour, du jeu, etc.
Et des rencontres.
Et en littérature, quand même, de bons textes.
De très bons textes. Alors, pour finir notre entretien et pour faire allusion à une œuvre de Jean Lurçat, qui mériterait à elle seule toute une émission, Jean Lurçat a créé une immense tapisserie qu'il a appelée Le Champ du Monde, qui a été exposée en 1964. Il y a travaillé pendant plusieurs années. Il s'agit en fait de 10 grandes tapisseries qui font chacune plusieurs mètres de long. Ce sont des tapisseries qui ont pour titre L'homme aux étoiles, L'eau et le feu, L'homme en gloire dans la paix. C'est tout un ensemble qui a vraiment marqué l'œuvre tissée de Jean Lurçat. Pour vous, Madame Lurçat, qu'est-ce que votre champ du monde ?
En tout cas pour lui, le champ du monde, c'était les dangers de l'époque actuelle. Mais comme il était profondément optimiste, il pensait que l'homme arriverait à dominer les dangers de l'époque et qu'il n'y aurait plus d'évanouissement. Il était très ami, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un garçon qui s'appelait Henri Guillemin. Guillemin était un journaliste, un écrivain, un polémiste qui a fait Normal Sup, qui a été longtemps attaché culturel en Suisse, et qui avait des amitiés très chaleureuses et des inimitiés aussi vigoureuses, tout en étant catholique. Eh bien, c'est lui qui reprenait le texte de Lurçat en disant « Quand ne tueront plus le petit noir, le petit nez, quand... » Il y a toute une phrase « Quand on ne chassera plus le, ouais. le noir, etc. » Je crois que c'est côté humain qui fait qu'il a eu envie de dire le champ du monde, nous avons beaucoup de menaces, la grande menace c'est la bombe nucléaire à l'époque, c'est pas fini.
Oui, il
Mais
a fait tout.
Il a voulu, comme il est optimiste, que la seconde partie soit plus positive. L'homme va dominer, l'homme dominera tous les dangers et arrivera à être heureux.
C'était ça.
D'ailleurs, sur sa tombe, il a fait une tapisserie qui s'appelait C'est l'aube. Donc cette phrase que je cherchais de Guillemin, que je n'ai pas retrouvée, qui disait « C'est l'aube des temps nouveaux où l'homme ne tuera plus, donc quand ne tuera plus, etc. etc. » Et sur sa tombe, j'ai repris cette formule « C'est l'aube ». Parce que c'était, il y croyait, mais enfin, pour le moment, vous et moi, on peut penser que l'aube, elle n'est pas encore là, hein, entre toutes les guerres actuelles. C'est encore pire quand il était là. C'est triste, mais c'est comme ça.
Alors vous avez quand même, de toute façon, gardé une graine d'espoir par cet amour qui vous a lié.
Ce que je peux faire, c'est que je pense qu'il avait raison, en tout cas. Il s'est tellement battu pour toutes ces idées que je pense qu'il n'est peut-être pas assez connu, ni connu comme tapissier. Beaucoup ne savaient même pas qu'il était peintre.
Oui.
Avant certaines
et
expositions.
Et ça a quand même occupé 20 ans de sa vie, voilà. Et puis il a toujours continué voilà. à peindre,
alors,
ce qu'on sait moins.
Et puis parce que je vous dis même, dans ses écrits, j'ai longtemps cité, et je ne voulais pas apporter, parce que c'est pas, j'ai eu le tort peut-être, à la distribution des prix du lycée de Saint-Céré, un petit lycée, on lui a demandé de faire le discours de clôture. Il a dit que je parlerai pour les élèves de philo. Et je le ferai court, étant donné qu'ils ont envie de partir en vacances, beaucoup plus que d'écouter des discours. Mais il leur a fait un texte que je regrette de ne pas avoir. C'est l'aube des temps nouveaux. Hein, pareil, oui. Où il a dit, vous êtes à une période difficile. Oui. Nous sommes au croisement de deux mondes. Le monde demain qui vient sera difficile. Enfin, il évoque en 64, c'était peut-être pas en 67, même 64, ce monde difficile que nous avons maintenant, cette mutation. Il dit, vous êtes en pleine époque. Voilà. Et ça, je ne regrette pas l'avoir porté pour vous le citer, pour vous dire qu'à quel point il était optimiste tout en étant extrêmement lucide. Il s'intéressait à tout, à la politique. Il a toujours des jeunes autour de lui, il avait des assistants autour de lui, dont son caractère était aussi jeune qu'eux. Mais ça a beaucoup porté sur les garçons, même de philo. Et c'est valable. C'était en 64.
Et pour vous, c'est toujours d'actualité.
C'est que c'est toujours d'actualité, au contraire.
J'invite nos auditeurs justement à retrouver des extraits de ce texte, à le lire justement sur notre site internet, sur la page qui accompagne notre émission. Madame Lurçat, merci pour cet entretien.
Je vous remercie moi de m'avoir permis d'évoquer tous ces souvenirs qui sont de bons souvenirs en résumé.
Et c'est nous qui vous remercions. Merci.